Le passage que nous allons commenter se trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 18 à 22. En voici la lecture. Frères, j'en prends un témoin le Dieu fidèle. Le langage que nous vous parlons n'est pas à la fois oui et non. Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été à la fois oui et non. Il n'a jamais été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi est-ce par le Christ que nous disons Amen, notre oui, pour la gloire de Dieu. Celui qui nous rend solides pour le Christ, dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il a mis sa marque sur nous, il nous a fait une première avance sur ses dons, l'Esprit qui habite nos cœurs. Alors, ici, une petite précision. Il faut savoir que la deuxième épître aux Corinthiens a été écrite un petit peu en réponse à des critiques que faisait la communauté de Corinthe, hein, communauté chrétienne bien turbulente. On en connaît aussi beaucoup des communautés chrétiennes ou des chrétiens comme ça qui sont bien turbulents. Nous-mêmes, nous le sommes aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils reprochaient? Il faut savoir que Paul avait promis qu'il irait voir les Corinthiens et finalement, il n'a pas pu aller les voir et d'où les reproches. Et on lui reproche aussi d'être sévère dans ses lettres. Et quand il est là de vive voix, il se fait doux comme un agneau. Donc on lui reproche un double langage. Et de ne pas tenir ses promesses. D'où on comprend l'insistance sur le fait que c'est pas oui et non, mais c'est simplement oui, etc. On comprend maintenant mieux le contexte de cette épître. Alors ce qu'il faut savoir, déjà c'est très intéressant en tant que tel de voir que Paul était très au clair avec ce qu'il devait croire, et avec le fondement, le fond de son action, mais que la forme peut des fois varier. Effectivement, on peut très bien être lucide sur certaines choses, et puis mettre de l'eau dans son vin, si j'ose dire, au coup par coup, avec comme finalité, avec, mais du moment qu'on a un but bien clair. Par exemple, on peut très bien décider, enfin, on peut très bien penser, effectivement, soyons lucides, telle personne n'est pas chrétienne, telle personne a besoin de ma prière et de mon amour, mais c'est pas pour autant que je vais la bassiner et la menacer de tous les feux de l'enfer. Donc on peut très bien se faire aimant et écoutant de cette personne, bien que notre but soit clair, que cette personne découvre le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Le but doit être clair, mais la manière peut être douce. Vous voyez, c'est la leçon de saint Paul. Finalement, qui savait être clair quand il s'agissait d'écrire, et d'écrire sur la doctrine notamment, mais quand il était avec les gens, eh bien, il savait être à l'écoute. Eh bien, voilà. Alors maintenant, rentrons un petit peu plus en détail dans le texte, après cette précision d'ordre, on va dire, historique. Frères, j'en prends à témoin le Dieu fidèle. Le langage que nous vous parlons n'est pas à la fois oui et non. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu est fidèle. Et comme nous sommes les fils de ce Dieu fidèle, nous ne pouvons pas parler un langage qui soit oui et non. C'est dans un autre passage de l'évangile de saint Matthieu, Jésus dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, d'ailleurs. Mais d'abord, ça nous révèle quelque chose de ce qu'est Dieu. Dieu est une personne, et le dit l'Épître aux Hébreux le dit en parlant du Christ, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu a une personnalité, et Dieu donc, comme il est une personne, on peut le connaître. Parce que Dieu a une personnalité bien définie, donc connaissable. Il n'est pas oui et non. Et ça, c'est important, parce qu'il faut penser à quelque chose qui est très politiquement correct, mais qui est très évangéliquement incorrect. Nous n'avons pas tous le même Dieu. Et toutes les religions ne se valent pas. Autrement, Dieu est oui et non. Alors, Dieu dirait, Jésus est mon fils, il est la pleine manifestation de mon amour, il est ma parole. C'est ça, le fils de Dieu. Jean, chapitre 1. Il est ma parole, mon verbe. Il est sorti de moi. En ce sens, il est fils. Non pas fils, comme le croient les musulmans, Dieu ayant eu des relations sexuelles avec Marie. Alors, Dieu ne dit pas à la fois, Jésus est mon fils, et dans une autre religion, dans l'islam, Jésus n'est pas mon fils, c'est un prophète, et il n'est pas mort sur la croix. Dieu ne dit pas, comme le dit l'Épître aux Hébreux, on meurt et après c'est le jugement, et puis il va dire, il y a des réincarnations. Dieu ne dit pas j'existe, et dans d'autres religions, même dans le bouddhisme, je n'existe pas. Parce que si c'est vraiment le cas, si les spiritualités finalement révèlent un visage de Dieu plus ou moins vague et tout ça, mais alors Dieu ne se laisse pas connaître, Dieu n'est pas connaissable, Dieu est oui et non. Finalement, Dieu ressemblerait beaucoup aux personnes parfois que nous croisons, que nous n'arrivons pas à cerner parce qu'elles sont hypocrites, parce qu'elles ont un double langage, parce qu'elles nous donnent à entendre ce que nous voulons entendre. Mais si Dieu était comme ça, et ça serait horrible, nous ne pourrions pas le connaître. Mais alors dans ce cas-là, si Dieu était comme ça, pourquoi la création, quand on regarde la création, même si il y a des défauts, ça c'est le péché, mais c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de défini, il y a des règles précises. Dieu sait ce qu'il fait. Donc on ne peut pas admettre l'idée qu'il y ait plusieurs religions qui révèlent chacune un visage différent de Dieu. Et il se trouve qu'il y a une religion qui nous dit que non seulement Dieu ne révèle pas plusieurs visages, mais il en a un. Et il nous l'a montré, c'est Jésus. Bon, je vais m'arrêter là, parce que si on creuse toute la révélation du Christ, etc., il est évident que le véritable visage de Dieu ne peut être que celui du Christ. Ne serait-ce que parce que c'est le seul visage qui nous montre un Dieu qui nous aime au point de mourir pour nous. Alors moi, rien que ça, ça me laisse pantois. Alors, ici, c'est aussi on verra plus tard, mais c'est aussi un encouragement, nous aussi, en tant que chrétiens, fils de ce Père, disciples de Jésus, de donner du poids à notre personnalité, de savoir où on va. Si on veut avoir du poids, il faut avoir une foi solide, être des êtres de prière, parce que vraiment, nous adopterons cette personnalité, nous allons revêtir le Christ, comme le dit saint Paul, et nous allons avoir une personnalité qui va nous allons pas être dépersonnalisés, nous resterons nous-mêmes, mais elle va gagner en densité, cette personnalité. Nous allons être plus aimants, plus à l'écoute, et nous saurons aussi quoi donner à nos frères. Et nous aurons vraiment des convictions à communiquer, même si comme saint Paul, il faut savoir le faire avec beaucoup d'amour. Mais ça aussi, Jésus nous donne un amour qui peut avoir de cette patience et de cette densité. Alors, le Fils de Dieu, le Christ Jésus que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été à la fois oui et non, il n'a jamais été que oui. Bon, d'abord, notons-le, Dieu est oui. Dieu t'aime. Et si parfois nous avons des refus, ou nous pensons que l'exaucement de notre prière ne vient pas, c'est pour notre bien, ou c'est parce qu'il faut du temps. Mais quelle erreur de penser que les commandements de Dieu sont faits pour nous brimer. Les commandements de Dieu sont faits pour notre bonheur. Il n'y a qu'à essayer de les transgresser pour voir très vite qu'on ne se sentira pas plus heureux. Regardez la société actuelle. Elle jette aux orties tous les commandements de l'Église, et se faisant aussi les commandements de Dieu les plus élémentaires. Je ne crois pas qu'elle soit plus heureuse pour autant. Regardez notre pays, la France. Un des taux de suicide les plus élevés au monde. Nous sommes un des pays les plus athées au monde. On récolte ce que l'on sème. Mais heureusement, le Seigneur est oui. Il est oui à la miséricorde, donc il n'est pas condamnation, mais il est pardon. Alors, ici aussi, Jésus, c'est le oui de Dieu. Dans l'Apocalypse, c'est l'Amen de Dieu. Voyez, il n'a pas été à la fois oui, il n'a jamais été que oui. Donc le Christ nous avons annoncé n'a jamais été que oui. Le Christ, c'est dans la Trinité celui qui dit oui au Père. Le Christ, c'est celui qui nous dit qu'il y a possibilité de connaître Dieu. Le Père a voulu, parce que tout à l'heure je disais, excusez-moi, je me coupe moi-même la parole. Tout à l'heure je disais que Dieu est une personnalité solide, donc il est connaissable, puisqu'il a une personnalité solide. Mais c'est pas pour autant qu'il pourrait avoir le désir de se faire connaître. Paul nous dit, le Christ, c'est le oui, d'accord? Le fils de Dieu, le Christ de Jésus que nous avons annoncé, il n'a jamais été que oui. C'est-à-dire que Jésus, c'est la preuve que le Père a envie de se faire connaître. de se communiquer. Non seulement Dieu a une personnalité solide sur lequel, enfin, qui le rend connaissable, mais il veut se faire connaître. C'est tout le sens de la Trinité du Fils. Si vous voulez, le Père, bon, il a engendré son Fils de toute éternité, il n'y a pas eu un moment où il n'y a pas eu un Fils. Mais ce désir du Père de se communiquer, de se donner, eh bien, c'est le Fils qui est engendré. C'est ce vis-à-vis de Dieu. Si vous voulez, il est Dieu, Jésus. C'est ce désir de Dieu de se donner à lui-même, de se communiquer. C'est, si vous voulez, Jésus, c'est ce désir de Dieu de se communiquer était tellement fort que c'est une personne, que c'est quelque chose de réel. C'est-à-dire que Dieu est un être de communion. Finalement, ce que je dis n'est pas si abstrait. L'humanité, dans un coup, Dieu a fait l'homme à son image, homme et femme, il les créa. D'accord? C'est dans la Genèse chapitre 1. Et c'est extraordinaire. Finalement, l'homme plein, c'est l'homme et la femme. C'est vraiment la communion. C'est le fait, c'est Adam qui s'écrit « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair ». C'est un grand mystère. Mais, comment dire, en Dieu, il y a ce désir de se communiquer de personne à personne, de manière personnelle. C'est le Père et le Fils. Le Fils, c'est cette preuve, ce témoin éternel que le Père se communique d'une manière personnelle, de personne à personne. Mais ce texte va bien plus loin. Écoutons. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne, la personne du Christ. Donc non seulement le Christ, donc c'est celui qui dit oui, c'est celui qui accepte la plénitude de se connaître, enfin, comment dire, de connaître Dieu. Finalement, quand on dit que le Christ est le oui de Dieu, c'est donc, comment dire, comme un vase, un réceptacle, qui accepte de recevoir toute la connaissance du Père, qui veut se communiquer de personne à personne, donc qui se communique à son Fils de manière personnelle. C'est pour ça que Jésus est pleinement Dieu. C'est ce que dit d'ailleurs Jésus, tout ce qui est au Père est à moi. C'est-à-dire que Jésus reçoit tout du Père, son existence, sa nature divine, etc. J'aime pas si on peut dire etc. d'ailleurs. Donc vous voyez, c'est Jésus, c'est ça. C'est celui qui est Dieu dans le sens où il reçoit tout de Dieu. Et ça, c'est se fait de manière éternelle, parce que le Père a toujours eu ce désir de se communiquer de manière personnelle. Et ce Fils a toujours le désir de se laisser aimer de manière personnelle. Eh bien, ça, on nous dit que toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Ça veut dire déjà que le centre de la révélation est en Jésus-Christ. Tous les passages de l'Écriture ne trouvent leur sens qu'en Jésus-Christ. C'est l'interprétation allégorique des Écritures. Nous ne pouvons comprendre pleinement la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, qu'à la lumière du Christ. C'est en Jésus-Christ que s'interprète, que se comprennent toutes les promesses de Dieu. Ensuite, ça veut dire que les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Donc, c'est-à-dire que, d'abord, les promesses de Dieu, c'est une personne, c'est Jésus. C'est-à-dire que la révélation, c'est que toute la foi, c'est ce que dit Benoît XVI dans son Jésus Nazareth. Qu'est-ce que nous apporte Jésus? Rien. Si ce n'est Dieu. Je dirais que c'est principal d'ailleurs, hein. Mais Dieu, c'est ce qu'il nous amène. Eh bien, ça nous montre quoi? Que la foi, c'est une personne. Que les promesses de Dieu, c'est une personne. Que l'amour de Dieu, c'est une personne. C'est Jésus. Donc, notre relation, finalement notre foi, ça se résume à une relation de personne à personne. C'est bien ça. Les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Donc finalement, Jésus est celui qui rend possible la relation avec Dieu. C'est pour ça que le texte précise. Aussi est-ce par le Christ que nous disons « Amen » notre oui pour la gloire de Dieu. On ne peut connaître, c'est ce que dit Jésus, « Nul ne vient au Père que par moi ». On ne peut avoir une relation personnelle avec le Père qu'en passant par Jésus. parce que Jésus est celui justement qui tient la place que nous sommes invités à avoir dans la Trinité. Tout à l'heure, quand je faisais la prière là de la méditation de texte, je disais que Jésus est Dieu dans la mesure où il reçoit tout du Père, et par Jésus-Christ, nous sommes des dieux. Ce n'est pas un blasphème. Contrairement à Adam et Ève qui ont voulu devenir Dieu par leurs propres moyens, Dieu nous offre, en étant co-héritier du Christ, c'est ce que dit saint Paul, il nous offre de devenir divin par participation. Participation à la personne du Christ, hein, qui est la tête et nous sommes le corps. C'est d'ailleurs ce que dit saint Irénée, un des pères de l'Église les plus éminents, d'accord, qui a vécu dans les premiers siècles du christianisme. Donc c'est pas moi qui l'invente. C'est extraordinaire ça quand même. Être divinisé par participation en Jésus-Christ. Nous sommes invités à rentrer dans la Trinité, comme la chair a fait irruption dans la Trinité à la résurrection du Christ. Nous sommes invités à prendre place dans la Trinité, cette relation d'amour enveloppée de l'Esprit, comment dire, en la personne du Christ, en étant ce oui à ce Dieu qui veut se communiquer à nous par le Christ. Donc nous sommes appelés à avoir cette relation un peu comme d'amour, comme un homme et une femme communiquent entre eux. La femme reçoit, l'homme donne, si on prend l'image sexuelle par exemple. Alors, je veux pas vous choquer, mais l'image, elle est vraie aussi. Nous sommes appelés à recevoir du Père, en Jésus-Christ, finalement, cette connaissance de sa personne. Et nous sommes appelés donc à une connaissance de Dieu personnel. C'est toute la révélation de Jésus. Aussi est-ce par le Christ que nous disons Amen, notre oui pour la gloire de Dieu. Jésus, c'est celui, c'est l'incarnation de la relation personnelle avec Dieu, si vous préférez. Jésus, c'est la relation personnelle avec Dieu faite chair, si vous voulez. C'est pour ça que vous pourrez éplucher toutes les religions que vous voulez, lire tout ce que vous voulez. Et j'en ai lu pas mal, mais je n'ai pas la prétention de savoir. Mais vous trouverez jamais une proximité aussi grande que ce que vous offre Jésus avec le Père. D'ailleurs, combien de religions appellent Dieu Père? Mais de la manière dont Jésus l'appelle, Abba. Abba qui veut dire papa. C'est le mot en araméen, dans la langue de Jésus, qui veut dire papa. En fait, Abba, c'est quand Jésus dit Père, c'est pas Père qui dit, c'est papa. Et quand, dans l'Épître aux Romains, Paul dit que l'Esprit nous permet de crier Abba, c'est papa. Donc, ça en dit long sur ce que nous propose Jésus. Donc Jésus est la pleine révélation de Dieu aussi. C'est pour ça que par rapport aux autres religions, nous avons un devoir de prière et d'amour pour qu'il rencontre le Christ et que par le Christ, il rencontre le vrai Dieu. Parce que même si dans des religions, il y a des bons germes, eh bien, ils sont loin de la pleine révélation. Et souvenez-vous de ce que dit Ézéchiel. Si on voit son frère pécher et qu'on ne fait rien, nous sommes responsables de son péché. Quand nous refusons de prier pour la conversion d'un musulman, d'un hindou, tout ce que vous voulez, et de l'aimer en priant pour lui, et que notre amour manifeste notre prière, si vous préférez, en se trouvant comme excuse que finalement on a tous le même Dieu, nous sommes responsables d'un grand péché. Parce que nous privons ces gens de l'amen de Dieu. Nous privons ces gens de la porte, c'est ce que dit Jésus, il est la porte, qui les conduit à la relation personnelle avec Dieu. Continuons. Donc nous disons Amen, notre oui pour la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu, c'est ça qui est beau, c'est d'avoir une relation personnelle avec nous. Le Père veut avoir une relation personnelle avec toi. C'est sa gloire à lui. C'est ce qui lui fait plaisir. Il n'y a pas plus gratuit comme amour, parce qu'il n'a pas besoin de toi, mais pour sa gloire, pour son bonheur, qui pourtant se suffira à lui-même, il veut que tu deviennes oui en Jésus-Christ, à son désir de se communiquer à toi. Celui qui nous rend solide, ah voilà, excusez-moi, et quand on voit ça, tout à l'heure je disais là, c'est sûr que c'est un mystère, c'est difficile de comprendre que Jésus, de toute éternité, est ce oui au désir du Père de se donner lui-même, etc. Mais ça veut dire aussi une chose, qu'il n'est pas question de connaître Dieu par fusion, mais bien par communion. Parce que j'ai le Fils et le Père est le Père. Et l'Esprit est l'Esprit. Donc ça qui est beau. On est bien loin du nirvana qui nous propose après des dépersonnalisations successives que sont les réincarnations, la dépersonnalisation finale qui est de se fondre dans un Dieu complètement informe. Avec Dieu, c'est très différent. Avec Jésus, nous sommes appelés à connaître Dieu par communion. Comme l'homme et la femme sont appelés à faire un par communion et surtout pas par fusion. On sait les dégâts que peut causer dans un couple ce désir de fusion, d'amour fusionnel. Donc continuons. Alors, je fais toujours des parenthèses, mais ce désir communion aussi veut dire que Dieu, malgré sa grandeur et notre petitesse, pour sa gloire, il veut une relation personnelle avec nous et une relation respectueuse. Il ne nous étouffera pas. Il va développer notre personnalité, l'enrichir, pour que nous soyons encore plus aptes à communier avec lui. Voyez. Alors celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés, c'est Dieu. Il a mis sa marque sur nous et nous a fait une première avance sur ses dons, l'Esprit qui habite en nos cœurs. Donc la promesse, c'est que Dieu est celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec nos frères. Alors nous croyons trop souvent, et j'ai peut-être tendance à vous le faire croire, que l'amour, effectivement, que les œuvres sont nécessaires en accompagnement de la foi. C'est vrai. Mais la première chose qu'il faut se dire, c'est que si nous voulons agir correctement et aimer correctement, mais c'est bien Dieu qui peut nous aider à le faire. Parce que si de nous-mêmes nous disons, allez, je prie, et après, de mes propres forces, je vais aimer, je vais faire ce que je peux. C'est pas bon, on va pas y arriver. Il faut que notre prière, quand on dit que ton nom soit sanctifié, Père, oui, sanctifie ton nom, rends-le saint auprès de telle ou telle personne qui ne te connaît pas, et aide-moi à aider à sanctifier ce nom, que par moi, les gens aussi reconnaissent que ton nom est saint. Donc, Dieu est celui qui peut justement nous aider pleinement à faire des œuvres pour lui. C'est ce qui est dit en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Dieu prépare des œuvres pour nous, pour que nous les fassions. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour agir de notre propre chef, nous sommes là, tout l'effort que nous avons, c'est d'être ce oui à Dieu, en Jésus-Christ, de nous laisser habiter par l'Esprit pour pouvoir faire des œuvres, pour pouvoir aimer à la manière de Dieu. Donc, non seulement Dieu est celui qui nous demande d'aimer, mais c'est celui qui nous permet d'aimer. C'est ce que dit saint Paul. Celui qui nous rend solides pour le Christ, donc le Père, par sa grâce, fait que nous serons de plus en plus à l'image du Christ, de plus en plus icône du Christ. Et c'est aussi celui qui nous rend solides dans nos relations avec vous. C'est celui qui nous a consacrés. C'est Dieu. C'est lui qui nous rend sacrés. C'est lui qui nous permet d'aimer d'une manière sacrée. C'est Dieu seul qui peut donner du relief à nos relations. C'est ce que dit Paul aussi par rapport aux Corinthiens pour se défendre, mais c'est aussi pour nous. Donc, c'est seul Dieu, par le Christ, en l'Esprit Saint, peut nous donner une personnalité à son image, c'est-à-dire pas oui et non, que oui. Vous voyez, oui à l'amour, je t'aime, d'un amour patient, au-delà de ce qui est humainement possible. Mais qui peut nous aider? Il n'y a que Dieu. Et la preuve, c'est qu'il nous a fait une première avance sur ses dons, qui est l'Esprit qui habite en nos cœurs. Ah, toujours trinitaire les épîtres de Paul quand on regarde. Alors, première avance sur ses dons, il ne faut pas croire que l'Esprit Saint est un don au rabais. Nous sommes appelés, en Jésus-Christ, à vivre pleinement la Trinité. Vous voyez, la Trinité, ça se comprend pas, mais on peut approcher le mystère un peu. Je parlais d'homme et de la femme. Quand l'homme et la femme s'aiment tellement fort, ils en viennent à donner naissance à un troisième être vivant, qui est l'enfant. Le Père et le Fils, en s'aimant comme un espèce de baiser, eh bien, il y a le souffle qui est apparu. Parce que c'est ça que veut dire Ruah en hébreu, le souffle, l'esprit, spiritus, c'est aussi ça en latin, le souffle. Hein. Eh bien, pneumatique en grec, le souffle. Donc, l'esprit, c'est le Père se communique d'une manière tellement vivante au Fils, d'une manière tellement personnelle, et le Fils est tout accueil d'une manière entière de toute sa personne au Père, que de cette relation de personne à personne si intense, de cet amour si intense de personne à personne, et comme procède, comme exhalé, expiré une troisième personne qui est l'Esprit. L'Esprit, c'est le sceau de la communion entre le Père et le Fils. C'est un peu comme si vous voulez l'amour personnel qui enveloppe le Père et le Fils, eh bien, nous sommes appelés à goûter cet esprit, à vivre de cet esprit qui est le sceau de l'amour personnel que nous entretenons avec le Père par le Fils. Comme l'esprit est le sceau de l'amour personnel entre le Père et le Fils, l'esprit, c'est le sceau qui nous est donné, comme quoi nous entretenons une relation personnelle avec le Père par le Fils. Et donc l'esprit, nous, quand dans la vie éternelle, avec le Fils, nous vivrons pleinement cette relation avec le Père, de personne à personne, nous serons pleinement dans la Trinité, en Jésus-Christ, ce oui à Dieu. Nous serons enveloppés de cet amour tellement personnel qu'est l'esprit, mais c'est dès maintenant que c'est valable. Même si nous sommes limités, c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre le premier avance sur ce don qu'est l'esprit. Nous, bien sûr, nous sommes limités, nous ne pouvons pas vivre pleinement l'amour de Dieu à la manière dont nous le vivrons dans la vie éternelle, mais nous l'avons pleinement à la mesure du possible dès maintenant. Donc le paradis commence maintenant, la vie éternelle commence maintenant. C'est pas, il faut trimer maintenant, on connaît pas Dieu, puis après on le connaîtra. C'est dès maintenant que nous avons cette possibilité de dire oui à Dieu, d'avoir cette relation à Dieu, d'une manière imparfaite, certes. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre, premier avance sur ces dons. Mais nous sommes donc au bénéfice de cet amour de Dieu, qui nous aime parfaitement dans la mesure de nos péchés, de nos réticences. Eh bien, c'est beau. Et ça doit nous aider à comprendre que, nous devons faire tout notre possible en devenant de plus en plus oui à l'image du Christ, en priant Dieu qui nous rend solides pour le Christ, qui nous rend capables de ce oui de plus en plus jusqu'à ce qu'il déborde pleinement dans la vie éternelle. Prions ce Dieu pour que il nous conforme, il nous configure toujours davantage à l'image du Christ, à ce oui qui est Jésus-Christ, pour que dans notre vie, nous soyons toujours davantage capables de vivre cette relation dont le Père et le Fils vivent dans la mesure du possible. Et c'est justement dans cette mesure-là où nous serons au bénéfice de cette première avance de l'Esprit que notre vie, que notre prière pourra porter du fruit auprès de nos frères. Voilà. Donc, je vous propose de prier maintenant si vous voulez bien. Je vais vous laisser pour cela un temps de silence où vous allez pouvoir prier à partir de ce commentaire. Ensuite, je me joindrai à vous en priant à haute voix, et enfin, je vous laisserai un nouveau temps de silence pour vous permettre de faire cette prière. Père, merci de vouloir te faire connaître. Apprends-nous toujours davantage dans l'esprit à avoir une relation plus profonde avec Jésus, pour que par lui nous puissions davantage te connaître. Et Seigneur, par ton Fils, nous te le demandons, rends-nous solides dans nos relations avec les autres, que vraiment nous soyons bénéficiaires de cet esprit que tu nous donnes dès maintenant, pour que vraiment nous soyons toujours plus conformes à ton image, toi qui n'es que oui, et qui n'es pas oui et non. Oui, que dans nos relations, Seigneur, nous soyons comme Paul. Nous ayons quelque chose à donner, tout en sachant recevoir pour mieux donner. De même, quand nous lisons ta parole, que nous soyons comme un immense oui à l'inspiration de ton esprit, plutôt que d'être oui et non et d'avoir des raisonnements bien humains, eh bien, donne-nous cette docilité face à ta parole. Oui, j'espère que ce moment, passé avec la parole de Dieu en ma compagnie, vous a aidé à vous rapprocher du Seigneur. Soyez assurés de ma prière. À bientôt, je l'espère, cher internaute. Fin de l'enregistrement. Free audio post-production by Alphonic.com.